Je crois qu'elle couvait depuis longtemps, notamment parce que deux monnaies semblent assez sous-évaluées, la monnaie chinoise, le yuan, et la monnaie américaine, le dollar. Alors que les Chinois ont un excédent commercial considérable et donc énormément de réserves en devises, leur monnaie aurait dû s'apprécier. Or, c'est une monnaie qui n'est pas encore convertible, qui est attachée au dollar, et les Chinois jouent la politique de la monnaie faible, ce qui leur donne un avantage compétitif artificiel qui accentue encore les déséquilibres commerciaux.
Mais les États-Unis semblent faire pareil, non ?
Alors, les États-Unis font exactement la même chose, mais pour une raison un petit peu différente, c'est que eux ne cherchent pas à accroître, comme les Chinois, un excédent, mais cherchent à faire face à leur déficit commercial, qui est tout à fait considérable, et d'ailleurs lié à l'excédent chinois, puisque les Américains achètent à la Chine. Et donc, eux veulent essayer de redresser leur commerce extérieur, qui est effectivement en mauvaise situation, et ils font tout pour que le dollar, même s'ils ne le disent pas officiellement, soit une monnaie affaiblie. Ce sont deux pays qui, en quelque sorte, perturbent le système commercial mondial par des valeurs de monnaie artificiellement sous-évaluées.
Quels sont les rapports de force dans la guerre des monnaies ?
Alors, la difficulté, je pense, principale est pour l'Europe, ou en tout cas, en raison du décalage entre l'Europe et les États-Unis et puis, par ailleurs, la Chine. C'est le fait que l'Europe souhaite mener une politique intérieure assez rigoureuse, je parle de la politique monétaire, celle de la Banque Centrale Européenne, et notamment l'Europe s'est refusée à baisser à des niveaux artificiellement bas le taux d'intérêt, et M. Trichet, qui est le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, dit que sa mission principale, qui lui a d'ailleurs été confiée par les traités, c'est de lutter contre l'inflation, et donc d'être rigoureux. En face, on a les États-Unis, qui restent quand même la puissance économique mondiale numéro un, qui font une politique tout à fait à l'inverse, qui ont des taux d'intérêt artificiellement bas. Le taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine est pratiquement égal à zéro, et qui ont décidé la semaine dernière d'injecter encore 600 milliards de liquidités en rachetant les bons du Trésor. Et donc, il y a un décalage entre la politique européenne qui est plutôt de lutter contre l'inflation et la politique américaine qu'on pourrait qualifier de plus laxiste. Ils savent d'ailleurs, ils le disent, que ça provoquera de l'inflation, mais ils en espèrent une relance économique dans l'optique des traditions, des politiques de relance keynésienne.
Est-ce que la Chine est un acteur principal dans l'économie mondiale ? Est-ce que c'est elle qui tient l'économie mondiale ou bien les États-Unis ?
Et personne, d'une certaine façon, ne tient l'économie mondiale parce qu'on est quand même dans un système qui est extrêmement multilatéral et où il y a le bloc européen de l'Union européenne qui compte, le Japon qui est très important, les États-Unis, la Chine, et puis il ne faudrait pas oublier les autres pays émergents, ce qu'on appelle le BRIC. Donc dans le BRIC, il y a la Chine, mais il y a le Brésil, le B pour Brésil, le R pour la Russie, le I pour l'Inde. Et donc tous ces pays ont un poids considérable. Et on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui domine le système. Mais ce qui est sûr, c'est que la Chine devient peu à peu une puissance de premier plan, qu'elle était déjà par sa population, qu'elle est maintenant par ses réserves monétaires, qu'elle a gagnées peu à peu, et qui lui permettent d'acquérir beaucoup d'entreprises dans le monde entier, et puis par son poids commercial et par ses excédents gigantesques.